Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren. Ah non, désolé, non, Mordren n'est pas là. Je serai en compagnie de Milemi. Ah non, 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 désolé, non plus. Du coup, il y a qui? Il y a TH.
Hello.
Il y a Dwayne.
Hello, salut à tous.
Et il y a, bien évidemment, Pixel.
Philippe, je sais où tu te caches.
Ok.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du retour de Sonic 2 HD, on enchaînera ensuite sur Dark Devotion, on évoquera également un nouveau mode pour Skyrim, on enchaînera ensuite sur un documentaire d'un anarculte, je cite Pixel, n'est-ce pas ? Nous évoquerons également un mode pour Code Vein, on parlera de Red Dead Redemption 2, ça y est, le trailer est sorti. On enchaîne ensuite sur Shenmue 3 et ses fameuses animations faciales, encore lui. On parlera de Atlus qui tente de jouer les gros bras avec les créateurs d'émulateurs. Et on terminera la semaine d'actualité sur un secteur porteur, n'est-ce pas, le cancer. Putain, c'est... Chez... Warner Bros, on est un peu nos limites en ce moment, et c'est assez savoureux. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer, messieurs, avec donc une démo d'un projet amateur. Et ce projet amateur, c'est un projet qui revient des enfers, n'est-ce pas ? C'est Sonic 2 HD. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je rappelle donc un peu l'historique du projet. À la base, Sonic 2 HD, c'est un projet qui est né sur le site Sonic Retro, n'est-ce pas ? Et le truc, c'est qu'en 2012, ce projet-là, Sonic 2 HD, il est un peu mort. Apparemment, le programmeur du projet avait un peu pris des gens en otage. Il avait pas ouvert son code. Il avait mis un DRM sur le projet. Bref, c'était un gros connard, n'est-ce pas ? Et il les a un peu lâchés du jour au lendemain, comme ça. En plus de faire n'importe quoi, apparemment, c'était coté avec les pieds. Bon, bref, voilà. Et il se trouve que là, en juin, il y a eu une annonce comme quoi le projet était de nouveau sur les rails et qu'il teasait donc un retour très bientôt. Et là, ce mois-ci, ça y est, on y est. On a le retour de Sonic 2 HD en bonne et due forme, avec déjà un trailer et surtout une nouvelle démo. Une démo que j'ai pu tester et qui, ma foi, est fort sympathique. Alors, c'est un petit peu trop propre à mon goût, hein, je le dis tout de suite. Mais faut quand même reconnaître le boulot. Il y a eu énormément de taf sur les animations, tout ça. C'est très fidèle à l'original, tout en ayant un look à jour, dirons-nous. Donc, ma foi, pourquoi pas, même si personnellement, encore une fois, je trouve ça un peu trop lisse. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, ou si nous passons à la suite.
Bah, c'est vrai que c'est plutôt cool. Après, c'est une démo, elle est gratuite, on peut directement aller tester ça. Mais c'est vrai qu'il y a là où on a justement à côté un Sonic Mania qui est assez bon et que tout le monde adore, c'est vrai que là on a ce petit truc un peu comme tu dis, ça a ce côté vraiment lisse et vraiment particulier et ça donne pas vraiment envie par rapport à un côté Sonic Mania où on est plus sur du rétro avec du pixel vraiment travaillé puis les niveaux qui sont refaits. Après,
alors attention, quand je dis lisse, ce que je reproche au rendu, si tu veux, c'est pas qu'il soit avec une 2D d'aujourd'hui, quoi. C'est que cette 2D d'aujourd'hui, en fait, elle est trop propre. Par exemple, les ennemis en métal, si tu veux, ils sont tout lisses, tout luisants. Ça manque un peu d'usure, quoi, on va dire. Enfin, de naturel. Alors que justement, le remake récent de Wonder Boy, je trouve qu'il est beaucoup plus classe. Alors qu'il est une 2D d'aujourd'hui.
Après, c'est vrai que ça reste une question de goût. Moi, je suis plus du côté Sonic Mania. Après, lorsqu'on parle de lisse, je pense qu'on est sur le même point. Il y a pas une vraie patte en fait. On sent juste que c'est là, c'est plutôt propre, c'est bien, mais il y a pas en fait ce petit supplément où tu te dis voilà, il y a une patte graphique. Là, c'est le truc un peu générique.
Bah, disons que là, en fait, ils auraient été un peu tôt dans le délire. On va faire un truc en HD, quoi.
C'est ça.
Au lieu de se dire on va refaire un truc à notre sauce en HD.
Après, voilà, c'est là on est en train de dire ça, mais ça reste assez propre. C'est un projet amateur.
Non, mais surtout ce qui est très important pour un projet comme celui-là, c'est que le moteur physique est fidèle à l'original, parce que Sonic, c'est que de la physique. Hein. Si ton moteur physique il marche mal, ton Sonic, il va être pourri, quoi. Et ils ont réussi à reproduire le comportement du moteur de l'époque. Donc, en termes de taf, il est fait, quoi.
Ouais,
très clairement.
C'est ça.
Après, pour revenir à Wonder Boy, je le trouve justement, lui, trop lisse. Contrairement, en fait, à Sonic, où il y a quand même l'aspect rétro qui est présent dans les graphismes en HD. Et là, ce que je reprocherais en fait à ce Sonic 2, c'est bah justement c'est que c'est un Sonic 2 HD et que c'est pas un nouveau jeu fait par des fans. Parce que Sonic, c'est quand même une communauté qui est très très active et il y a de très très bons jeux faits par des fans. Il y en a aussi vraiment des très pourris. Il y en a aussi qui ne servent à rien. C'est juste par exemple, il y en a quelques-uns que j'ai pu tester où ils remplaçaient juste Shadow à la place de Sonic.
Il y a eu aussi pas mal d'expérimentations en 3D qui sont intéressantes dans la communauté Sonic. Comme ils sont pas satisfaits du gameplay à la Sonic Adventure, ils essaient d'autres choses et c'est intéressant. Voilà.
Voilà. Et c'est un petit peu dommage qu'ils sont partis sur un Sonic 2 HD et pas sur vraiment une expérience qu'ils auraient voulu faire eux-mêmes et que ça ne serait pas aussi une simple compilation des meilleurs niveaux de tous les Sonic réunis dans un seul jeu.
D'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche à Sonic Mania, c'est que certes, ils rajoutent des nouveaux niveaux, mais il y a aussi beaucoup d'anciens, quoi.
Non, mais clairement, il y avait même aussi à l'époque les Sonic qui étaient sortis sur GBA, donc c'était la première fois qu'un Sonic sortait sur une console Nintendo. Et quand on a vu les Sonic qui étaient sortis, donc les Sonic Advance 1, 2 et 3, bah je le trouve plus beau que, si tu veux, que le Sonic qu'on a maintenant, le remake des fans, parce qu'il y avait un peu cette patte de rétro et de modernité qui était ajoutée avec les pixels de la Game Boy Advance qui ne pouvait pas proposer plus. Mais il y avait l'aspect aussi cartoon qui rentrait en jeu. Alors que là, tu vois vraiment que c'est, comme tu l'as dit, en fait, ça fait un peu trop métallique, un peu trop anguleux. Le level design, pour les peu que j'ai pu en voir, parce que c'est vraiment un court trailer de 1 minute 30 et
j'y ai joué à la démo, c'est copier-coller. Enfin, c'est Sonic 2 HD très clairement, c'est pas on va refaire entièrement les niveaux, ils sont fidèles au projet mais ils le mettent en HD quoi.
Ouais, parce que moi en fait, voilà. Ce qui me fait peur dans le trailer, c'est que Sonic, tu l'as dit que c'était une physique certes, mais c'est aussi avant tout un level design parce que tu peux faire un niveau vers le bas, vers le milieu, vers le haut. Enfin, t'as plusieurs chemins pour arriver au même point à la fin. Et là dans ce que j'ai pu voir dans le trailer et vu que toi tu as pu jouer à la démo, peut-être que tu vas pouvoir me confirmer, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez droit en fait.
Bah, c'est le level design d'origine, hein, donc c'est copier-coller, hein. C'est exactement le même. Et puis bon, t'as vu le trailer, c'est Green Hill Zone.
Oui.
Green Hill Zone, c'est pas la zone la plus folle en termes de level design. En même temps, c'est niveau 1, donc... Après, je t'avoue que la démo, j'ai juste testé pour voir si c'était propre, si ça tournait bien, etc. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que j'ai pas joué à un Sonic, hein, donc je les connais pas par cœur non plus, quoi, faut pas déconner. Mais moi, des souvenirs que j'en avais, ouais, c'était ça, quoi. J'ai pas vu des trucs comme par exemple Sonic Mania. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant en Sonic Mania, c'est que des fois, ils s'amusent à retourner certaines situations.
Ouais, non mais
où
clairement.
Tu t'attends à un truc et ils jouent avec ça et en fait, ils te filent un autre truc à la place quoi.
C'est pour ça que je me demandais si c'était un peu ils étaient partis un peu sur le délire un peu à la Sonic
Mania.
De
ce que j'ai vu là, ils sont pas du tout dans ce délire là, ils sont vraiment très fidèles à l'origine. Bon, allez, Dwayne, on va parler d'un projet qui sort, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et ce projet s'appelle Dark Devotion, c'est fait par des Français.
Exactement, donc les Français de Hibernian Workshop, donc ils ont lancé leur Kickstarter, ça va être en fait un peu dans la lignée des Souls-like qu'on a pas mal en ce moment, donc ils promettent en
2D,
fait,
précisons-le.
Voilà, donc c'est en 2D, en scrolling horizontal, on va avoir en fait une forte influence RPG, donc ils promettent justement des combats assez intenses, pas de pitié, c'est-à-dire que les ennemis ne vont pas faire de cadeaux, à la moindre erreur, on est sanctionné. Ça va être un lore un peu médiéval, à la Dark Souls, toujours. On va avoir pas mal d'armes à looter, va y avoir un système où on va prier pour justement récupérer, en fait, de soit de la santé, ou par exemple, si on est infecté, il va falloir faire attention, on va pouvoir justement prier, soit pour... avoir de nouvelles armes, enfin, pour accéder
alors,
à...
Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la prière, c'est de la foi, si tu veux,
c'est
ils appellent ça la foi, et ça te sert pour la magie, et en plus, ça te sert pour ouvrir certaines portes, activer, par exemple, une forge qui va te donner des armes spéciales, et du coup, il faut que tu choisisses comment utiliser ta foi, parce que ta foi est limitée, elle est très très limitée, en fait. Alors des fois tu vas looter des items qui vont te permettre de la recharger, mais et tu peux récupérer de la foi quand tu utilises l'ennemi aussi. Mais le truc, c'est que la foi, tu la récupères au compte-gouttes, quoi. Surtout quand tu vas débloquer la magie, je pense que c'est une ressource qu'il va falloir gérer avec parcimonie. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que dans le level design, en fait, tu vas te dire, alors, est-ce que j'ouvre cette porte, ou est-ce que je garde ma foi, mais je passe par un chemin plus classique, mais je garderai ma foi pour les combats, tu vois. Et c'est en ça que la mécanique est intéressante, quoi.
Il y a également, bah, il y a, comme tu l'as dit, le système avec les portes où il va falloir, bah, il y a plusieurs chemins que tu vas pouvoir choisir et quand tu vas passer par une porte, en fait, ouais, vas-y.
Alors pour le coup là, si vous avez joué à Dead Cells, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que les niveaux ont des portes qui mènent vers un autre niveau, en fait. Dans chaque niveau, t'as deux ou trois portes, on va dire, grosso merdo. Et une fois que t'as passé une porte, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, en termes de structure du jeu, ça n'a strictement rien à voir avec un Souls. Voilà.
Par contre, pour des Français, je trouve que c'est vraiment super ce qu'ils arrivent à faire en termes de direction artistique. Je suis complètement tombé amoureux du truc. Surtout, enfin, il y a une direction artistique et puis la musique qu'on entend dans la présentation du jeu, ça me choquerait pas si tu veux entendre cette musique-là dans un Castlevania, ça ferait même peut-être partie des meilleures musiques de ce type-là. Je suis vachement hypé en fait par le projet. C'est aussi crade que dans un Dark Souls, les monstres ils font clairement penser à un Dark Souls ou à un personnage de Berserk, mais c'est vrai que il y a ce petit côté dégueulasse malsain qui est bien présent et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et le système foi malédiction bénédiction a l'air d'être intéressant sur le papier aussi.
Donc là, de toute façon, il y a une démo qui est déjà disponible avec le Kickstarter, donc il propose une partie du premier monde.
En termes de structure, grosso modo, le premier monde, ils ont dit par exemple, t'as grosso merdo quatre chemins, sachant qu'il y a certaines portes qui vont te ramener sur un chemin plutôt qu'un autre. Par chemin, tu as un boss, donc t'as quatre mini-boss, plus un world boss, ils appellent ça, un gros boss à la fin, quoi. Sachant que t'as trois ou quatre mondes, je crois qu'ils ont dit.
Quatre mondes pour l'instant.
Voilà, donc ça fait quand même
et
pas mal
boss,
de chemins.
Et les boss, ils ont la classe, hein.
Et là, on est sur un objectif donc de 20 000 euros. Il reste 15 jours et on est à peu près un peu plus de la moitié, donc à 12 224 exactement au moment où on enregistre.
Alors, pour le coup, moi, je vais donner mon avis parce que j'ai joué à la démo. Contrairement à TH, moi, je suis pas vraiment hypé. Pourquoi ? Alors, certes, la direction artistique est super cool, il y a pas de souci. Le truc, c'est que pour moi, il y a eu un deal breaker sur ce jeu. Il y a pas de saut. Enfin, moi, je trouve que les jeux, en fait, le truc, c'est que les jeux en 2D sont déjà limités du fait qu'ils sont en 2D justement, quoi. Et si tu retires le saut, je trouve que tu retires tout un pan de gameplay qui fait que du coup, si t'es pas extrêmement solide sur les autres points, c'est-à-dire le level design et tout ce qui est déjà feedback visuel sonore. Alors là-dessus, il y a aucun souci, mais en plus le système de combat, ben c'est chaud. Donc soit ton level design est excellent et pour le moment, moi il m'a pas convaincu, soit ton système de combat est en béton armé et le problème c'est que le système de combat m'a pas convaincu non plus. Pourquoi ? Parce que pour le moment, je trouve que il est assez limité. Alors t'as des roulades comme dans Dark Souls, oui. T'as un système assez lourd si tu veux. Vous fiez pas au gif qui est sur la page. Le jeu est beaucoup plus long que ça en vérité. T'as un personnage qui file deux coups. Il y a pas vraiment de grosse subtilité quoi. En gros, t'attends que l'ennemi en face il file un coup. Tu le tapes deux fois, tu recules. Il donne un coup, tu tapes deux fois, tu recules. Voilà. Donc c'est pas non plus la folie en termes de système de combat. Et puis, ah oui, il y a une dernière mécanique qui m'a saoulé. Alors ça, c'est très subjectif, par contre, j'assume. Ils ont fait une mécanique à la Goose and Ghost. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu perds tous tes items. Et c'est pas genre Dark Souls, tu sais, Dark Souls, tu meurs, certes, voilà, tu vas récupérer tes âmes, t'as une petite carotte, tu vois. Non, là, c'est tu meurs, tu perds tout. Mais tout. Absolument tout. Et donc, tu recommences, tu es à poil. Tu vas te retaper la même portion de niveau parce que pour le coup c'est du fait main et donc il n'y a pas de procédural dedans et moi je suis dubitatif sur le fait qu'ils aient choisi de faire du fait main parce que l'intérêt du fait main si tu veux c'est d'avoir un bon level design et pour moi le moment moi le level design je le trouve assez basique. Du coup je me dis ce jeu il gagnerait énormément en fait à avoir de la génération procédurale. Parce que moi ce qui m'a saoulé en fait c'est que je faisais systématiquement les mêmes portions de niveau. Surtout quand t'es pas un bon joueur comme moi, bah tu crèves en boucle à certains passages et du coup tu te retapes le même couloir, etc. Et au bout d'un moment ça te saoule en fait, parce que du coup tu sais où sont certains items, etc. Et dernier point qui m'a déçu, à un moment donné, tu vois, j'arrive sur un ennemi qui a des espèces de griffes et je me dis putain, ces griffes elles ont un moveset super cool, ça serait génial que je puisse les looter. J'ai réussi à looter une griffe à un moment donné et là qu'est-ce que je me rends compte ? C'est qu'en fait, le moveset auquel a accès le joueur n'est pas le même que le moveset des ennemis. Alors peut-être que c'est temporaire, parce que je rappelle que ce n'est qu'une démo, hein, et j'espère que c'est temporaire, parce que moi pour le coup j'étais très déçu, parce que je voyais un ennemi qui se prenait pour Wolverine et tout, et qui au bout d'un moment donné te faisait un combo, et qui arrivait et qui donnait un énorme coup de griffe à la fin, et moi j'avais un personnage tout pourri qui restait immobile et qui donnait deux coups de griffe comme ça, pas terrible quoi. Je veux bien crever en boucle, si tu veux, du moment que je sois sur un pied d'égalité avec ce qu'il y a en face, quoi. C'est des humanoïdes, pourquoi est-ce que j'aurais pas accès au même moveset qu'eux? Et surtout, à la limite, qu'il y ait des movesets différents, pourquoi pas, imaginons. Mais au moins, j'ai un moveset cool.
Mmh.
Parce que là, j'ai juste un personnage qui est comme un con, qui est planté sur place. J'ai aucun intérêt en plus à utiliser ces griffes, pourquoi? Parce que avec les griffes, non seulement tu peux pas te protéger avec le bouclier, parce que t'as une griffe dans chaque main, mais en plus, t'as moins de portée qu'avec l'épée. Donc pourquoi est-ce que j'utiliserais ces griffes?
Tu peux pas débloquer des skills concernant par exemple les armes telles que les lances, les griffes qui t'ajoutent des moussettes?
Peut-être que ça sera dans le jeu final, je n'en sais rien. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai terminé la démo, hein, j'ai battu le boss de la démo et tout. Après, je me suis pas non plus amusé, tu sais, à recommencer pour tester What Me Chemin. Surtout que moi, j'étais tombé sur un chemin assez cool où à un moment donné, je suis tombé sur une forge où j'ai débloqué une espèce d'épée de feu et tout. Je peux dire que j'avais pas envie de crever. Ça, je trouve par contre, ça marche pas mal, le fait que comme tu perds ton équipement, tu sais, quand tu tombes sur du bon équipement, t'as envie de le garder, quoi. Mais par contre, je trouve que ça serait bien qu'au bout d'un moment, t'aies genre un système pour pouvoir sauvegarder une partie de ton équipement. Parce que si à chaque fois tu retombes à poil, personnellement, ça va me saouler. Hein. Je suis pas un fan de Ghouls and Ghosts à la base, donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouvais que ça manquait de pêche, ce système de combat, quoi. C'est aussi mou, entre guillemets, qu'un système de combat à la Dark Souls. Sauf que dans Dark Souls, en plus, t'as des notions de placement. Enfin, il y a la 3D, quoi, en fait. Et la 3D, ça change tout dans Dark Souls. Là, t'es un jeu sur un plan 2D et avoir un système à la Dark Souls, sans possibilité de sauter, avec un personnage super lent, bah moi j'ai trouvé que ça donnait un jeu super mou en fait.
Après ça peut être amené à évoluer, hein. Comme on l'a dit, c'est une démo, il y a des feedbacks à donner aux devs, et... mais moi je trouve en tout cas, malgré ce que t'as dit, enfin je suis assez d'accord avec le système de combat et certaines de tes critiques, mais après ça reste quand même un Kickstarter très solide. Il y a l'ambiance qu'il a pour lui, je trouve que le lore, la façon dont c'est disséminé, même si c'est pas forcément extrêmement original, c'est-à-dire que t'as certains parchemins, etc., et puis les personnes qui vont te raconter un peu leur life, mais ça reste assez bon à tous ces niveaux d'ambiance. De toute façon, c'est amené à évoluer, et ça reste un Kickstarter avec une démo, et ensuite les devs pourront...
De toute façon, ça c'est mon avis. Allez tester la démo. Moi, je vous incite à aller tester cette démo. Putain, pour une fois, on a un Kickstarter avec une démo, allez la tester, quoi, bordel.
Bah, c'est de plus en plus fréquent, hein, maintenant.
Oui, bon, c'est vrai que j'ai parlé de la dernière fois, par exemple, Mad Portia, où il y avait une démo aussi, etc. Mais, ça, c'est les projets que nous, on sélectionne, parce qu'il y en a plein d'autres à côté des projets,
où il n'y a pas de démo, etc.
Il
y a toujours eu ces projets fan art. Tiens, regarde, j'ai 3 images, quoi.
Par contre, dernier point, 20 000 euros, c'est pas beaucoup, hein. c'est la dernière remarque au passage. Pour des Français, hein, je rappelle que c'est 20 000 euros avant commission de Kickstarter et surtout avant impôt, hein, parce que l'État français prend sa part sur le truc, hein, je vous rappelle quand même. S'ils en ont besoin, j'espère que derrière, ils ont prévu d'enchaîner rapidement sur un Early Access, parce que faites un calcul rapide, hein. Je compte même pas les taxes, etc. Hein. On va dire, allez, je suis généreux, ils ont 20 000 balles. 20 000 balles divisées par 3, je vous laisse calculer. Tu tiens pas longtemps avec ça. Hein. Donc j'espère qu'ils ont prévu de lancer assez vite tout ça. Et voilà. Bon, après, apparemment, il y a une autre démo qui est prévue derrière pour ceux qui auront backé le projet, où là, tu auras le monde 1 au complet. Donc quand même, ça a l'air assez avancé. Et je pense qu'ils ont déjà matière à lancer un accès anticipé. Bon. Allez, du coup on s'est étendu pas mal là-dessus, je vais juste parler en vitesse de Skyrim, juste pour vous signaler qu'il y a un énorme mode qui va bientôt être disponible sur Skyrim, et je pense que c'est un mode que beaucoup de gens attendent, ça s'appelle Skyrim Together, et c'est tout simplement un mode qui ajoute le coop dans Skyrim, et ça c'est un truc de fou, parce que ajouter le coop dans Skyrim, ça veut dire que les mecs ont fait leur propre netcode, ce qui veut dire que c'est des grosses brutasses en fait. surtout que leur mode, apparemment, il prend en charge les autres modes. Petite subtilité, par contre, tous les modes qui utilisent le script extender de Skyrim, vous savez, il y a certains modes qui ont besoin de scripts externes parce qu'ils sont tellement évolués, etc., qu'ils utilisent des fonctions qui ne sont pas implémentées dans le jeu de base. Et donc, du coup, ils font appel à un script externe qui balance des requêtes, etc., enfin bref. Et le problème, c'est que ça, comme ça ne tourne pas directement dans le jeu, ils ne peuvent pas... si vous voulez récupérer les infos, quoi. Et donc, ces modes-là spécifiques qui, donc, utilisent le Skyrim Script Extender, ils ne peuvent pas fonctionner avec ce mode-là. Mais par contre, tous les autres modes, du moment que c'est installé sur les deux machines, ça fonctionnera.
Mais par contre, le mode Skyrim en ligne comme ça, il était pas déjà sorti ?
Non. Enfin, ou alors il était peut-être dispo depuis un moment, mais là on a la version.
Non, mais tu sais, ça s'appelle The Elder Scrolls Online. C'était pas déjà sorti ?
Oh. J'aurais dû savoir, c'est un troll de TH. Enfin bref. Cela dit, pour avoir vu The Elder Scrolls Online, c'est quand même des jeux assez différents en termes de gameplay. Il y a des différences quand même assez notables. Voilà. Maintenant, on va passer à l'instant pixel. L'instant pixel qui va nous parler donc d'un documentaire, je crois.
Ouais, alors c'est l'instant nanar, rétro nanar. Hein. Donc si vous n'avez pas compris pourquoi j'ai fait Philippe, je sais où tu te caches. En intro, c'est pour ça. Je suis tombé par hasard en fait sur un documentaire très bien fait de la chaîne YouTube My Life in Gaming, qui est une chaîne de deux mecs en fait qui font beaucoup de rétro gaming, mais du côté technique. Histoire d'avoir la meilleure image possible, histoire d'avoir des vieilles consoles en HD, ce genre de choses. Et ils ont fait un Patreon pour réaliser un documentaire sur le jeu nanar ultra culte Night Trap, qui est sorti sur Mega CD en 92, qui est un jeu en full motion vidéo qui tourne à 15 images par seconde, donc je vois pas où c'est le full motion, mais bon, on repassera. Et là, ils ont interviewé en fait le réalisateur. Pas du jeu, mais la personne qui s'est chargée de filmer les scènes.
Et oui, il retrace un peu l'historique du projet aussi, voilà. Parce que j'ai regardé le début apparemment.
Et il retrace l'historique du projet et aussi l'historique, en fait, tout ce qui s'est passé avant Night Trap. Comment Night Trap a fini par exister, en fait.
Ouais, comment un jeu comme Night Trap finit par exister, parce que quand même, aller financer un jeu comme ça, faut oser, quoi.
Voilà. Et il faut savoir, enfin, je vais faire un petit résumé, je vais pas tout expliquer non plus, mais il faut savoir qu'en fait, que, au départ, c'était pas un jeu vidéo, Night Trap. C'était un jeu, comment dire, une sorte de jeu de plateau sur support vidéo, VHS. C'était Hasbro qui voulait faire ça, là, c'était en 1986, déjà, à l'époque. Ils avaient la techno. Ils avaient récupéré une techno venant d'une espèce de génie codeur ingénieur qui leur avait montré un prototype, et ils avaient racheté la techno, mais ils savaient pas trop quoi en faire, donc ils ont engagé le directeur qu'on voit dans la vidéo pour faire des prototypes. Et ils ont aimé les prototypes à base de vidéos, et on devait choisir en fait des vidéos qui tournaient en temps réel, et grâce à une petite télécommande, on pouvait changer de... Bah, comme dans Night Trap, c'est on change de caméra de sécurité, on voit ce qui se passe en temps réel. À l'époque, pour une raison inconnue, ils avaient refusé. Bien sûr, la raison, ils la donnent dans le documentaire, mais vous allez devoir le regarder pour le savoir.
Oh, ce teaser ! Oh là là !
Ce teaser à la Julien Chiez, je vous jure, hein, des fois. Night Trap finit par être tourné, en fait, toutes les vidéos. Hasbro récupère tout ça, puis ils disent non, on va pas le faire, pour une raison que je ne dévoilerai pas. Et en 92, en fait, le jeu finit par sortir sur Mega CD et devient le jeu le plus controversé de l'année, avec les hautes instances politiques américaines qui ont fait un audit à l'époque, où tu vois les grands représentants de Sega America, de Nintendo of America et du Congrès américain qui se renvoient la balle les uns auprès des autres pour savoir qu'est-ce que c'est que la violence dans les jeux vidéo, ceci, cela. Et bon, il faut savoir qu'à l'époque...
Décidément, les conneries ne changent pas, hein, quelque soit l'époque.
Les conneries ne changent pas. Alors, c'était une grande chasse aux sorcières, et à l'époque, j'ai envie de dire, Nintendo of America, vu qu'ils étaient en concurrence directe avec Sega of America, ils ont vu ça, mais c'était du pain béni pour eux, parce que c'était un jeu qui était édité par Sega aux États-Unis et même partout ailleurs dans le monde. Donc c'était le moment idéal pour taper Sega entre les jambes et pour les mettre
sous la terre. Cela dit, ça collait bien à l'image du Sega de l'époque qui s'est joué un peu aux Rebels.
Voilà. Mais sauf qu'ils sont allés trop loin, ça les a dépassés. Ils ont dû retirer le jeu très très vite. Ils l'ont remis à la vente des semaines ou des mois plus tard, je sais plus trop.
Une fois qu'un polémique est passé, quoi.
Voilà, une fois que la polémique est passée, ils l'ont sorti sur 3DO, ils l'ont sorti sur PC, etc. Mais c'était toujours dans une version dégueulasse, hein, visuellement, parce que, bon, la technologie des consoles de ACD de l'époque était à chier, faut le dire aussi. Et là, il y a, en 2014-2015, le réalisateur des vidéos de Night Trap s'est dit qu'il y avait une opportunité, hein, typiquement la mentalité à l'américaine, j'ai une opportunité pour ressortir le jeu. Je vais faire mon Kickstarter, et ça a pas marché.
Sans déconner.
Voilà. Donc, le mec se dit, bah non, je suis pas déçu parce que ça a été une bonne expérience. Et il se rendait compte en fait que dans tous les commentaires qu'il voyait dans les réseaux sociaux et partout, tous les rétro gamers voulaient que ça ressorte, soit en Blu-ray, soit sur PC, bref. Et là, c'est ressorti. Je savais que j'en avais déjà entendu parler ces derniers mois de la ressortie de Night Trap, mais je savais pas que c'était sorti. En fait, c'est sorti déjà depuis pas mal de temps.
Ah, ça va être ma Madeleine de Proust, Pixel.
Voilà, c'est ma Madeleine Nanard, on va dire ça comme ça. Et c'est ressorti au printemps 2017, en version démat sur PS4, PC et Xbox One, si je ne m'abuse.
Et personne n'en a entendu parler, bien évidemment.
Voilà, personne n'en a entendu parler parce que c'est sorti uniquement aux États-Unis, mais il y a une version retail physique qui est sortie uniquement aux États-Unis et uniquement sur PS4, d'après ce que je sais.
Encore un truc qui va s'échanger sous le manteau.
à des prix exorbitants sur eBay.
Collector,
mais,
mec.
Voilà, la version PC, en fait, est disponible sur Steam. Donc voilà, vous pouvez l'acheter sur Steam, ça coûte 15€.
Non, c'est bon, c'est
Et moi, j'ai bien envie de me le faire parce que c'est la master vidéo professionnelle qu'ils ont récupéré de l'époque.
Parce qui que c'était quand même assez dégueulasse, hein, les versions de l'époque. J'avais vu le jeu tourner, voilà. Par contre, c'était voilà. Dégueulasse. Hein.
Ouais, bah, les vidéos, à l'époque, il fallait que ça tourne quand même sur le méga CD, donc c'était vachement compressé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, Night Trap, il avait fait polémique, mais comme tu l'as dit, ça correspondait bien au Sega de l'époque. On se rappelle tous de la version Mortal Kombat qui était sortie sur Mega Drive et la version Super Nintendo. Il y en avait une où il y avait les Fatality et avec les gerbes de sang. Sur la Super Nintendo, déjà t'avais pas le sang et puis t'avais que les Bability, t'avais pas tout ce qui était arrachage de tête, des bons moments. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de Sega, ça correspond bien à une partie de l'histoire. Mais par contre, Night Trap, Phantasmagoria, même pour l'époque, je trouvais ça déjà ridicule et totalement nardesque, quoi.
Là, c'était voulu, hein, de toute façon. C'était les années 80, j'ai envie de dire.
Ah oui, non, mais c'était, ça c'était reste, voulu pour voilà. Vendre, bon, sur la jaquette, bon, ils vendaient les boobs, quoi. Hein.
Tu revois Night Trap aujourd'hui, c'est très soft, hein. D'ailleurs, le réalisateur des vidéos, il le dit lui-même dans l'interview. À l'époque, en 93, ça avait fait scandale. Regardez aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait dans le jeu vidéo, c'est ridicule. C'est ridicule.
Ah non, mais c'est sûr que ça serait voilà, sorti aujourd'hui, ridicule. Ça serait un PS2, ouais.
Hein. Bon, les gens, je vous propose qu'on enchaîne. Pixel, on a des nouvelles de Code Vein, je crois.
Ouais, le Dark Souls-like avec son chara-design de shonen what the fuck, qui me sort par les trous de nez, hein, je dois le dire, hein, c'est un avis personnel. Les gens se demandaient, bon, bah il y a deux persos dans le jeu, donc est-ce qu'on peut jouer à deux? Est-ce qu'on peut jouer en multi? Puis il n'y avait pas de réponse. Et là, lors d'une interview récente avec Game Reactor, on a le producteur qui s'appelle Keita Izuka, bah il s'est exprimé en fait sur le sujet, et il a dit que oui, l'équipe, en fait, bosse sur un éventuel mode multijoueur, mais que c'est trop tôt pour en parler, et donc, il en parlera pas. Et puis, voilà, c'est tout.
Voilà. Mais cela dit, pourquoi je voulais parler de cette news? Ça serait une riche idée, en fait. Parce que pour le moment, moi, je vous avoue que ce projet, il m'a pas du tout convaincu, parce que je vois pas trop ce qu'il apporte au schmilblick, en fait. Par contre, un vrai mode coop, ce qui manque un peu à Dark Souls, je trouve. Parce que Dark Souls, il y a pas, enfin, je veux dire, à part sur les boss, on peut venir aider son pote, il y a pas de mode coop concrètement. Enfin, tu crèves, c'est chiant, tu vois. Si tu crèves, il faut se reconnecter, machin. Enfin bref, c'est pas fait pour. Un vrai mode coop bien foutu où il y a des synergies entre les deux personnages, etc. Ce sera une riche idée. Voilà. Donc, si vous pouviez creuser de la question, ce serait bien parce qu'en plus, je veux dire, vous avez un système de base qui est prévu pour, parce que les deux persos ils sont prévus pour fonctionner en tandem. À mon avis, vous ferez bien de creuser dans cette direction. C'est tout. On passe à la suite, messieurs ?
Ouais.
Et on va passer... j'allais dire le gros morceau, mais personnellement, ça m'a pas plus enthousiasmé que ça, je vous avouerai, mais bon...
Le paquet cadeau.
Pour le reste du monde, je pense que voilà, c'est une grosse annonce. Enfin, une grosse annonce. C'est en tout cas le nouveau trailer de Red Dead Redemption, avec surtout la sortie qui sera prévue au printemps 2018, sans plus de précision, bien évidemment, hein. C'est Rockstar, je le rappelle quand même. Et on a appris en plus apparemment que ce serait la fameuse bande de John Marston, enfin celle dans laquelle était John Marston et que l'on chasse dans le premier épisode, n'est-ce pas ? Donc a priori ce serait une préquelle à Red Dead Redemption 2. Par contre, on ne jouera pas, bien évidemment, John Marston. Ce sera un autre personnage, voilà.
Arthur Morgan, pardon.
Voilà. Et je pense que Pixel, toi, par contre, t'as pas été du tout hypé, je crois, par cette
Non, j'ai pas été hypé parce que c'est d'un point de vue technique uniquement. Hein, je parle. Je regarde le premier plan, tu vois, le mec de dos, il regarde la nature. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être correct. Et puis je regarde dans le coin, je regarde les herbes hautes, elles sont Ah tiens, bizarre, ça fait penser un peu, je sais pas, à une espèce de jeu PS3, là, c'est pas beau, c'est vilain. Et puis les plans, ils s'enchaînent, puis je regarde, putain, mais les textures sur les personnages, elles sont dégueulasses. Là, je me suis dit, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, et non pas la rédaction de Game Info, premier sur l'info, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai trouvé les textures, personnellement, mais dégueulasses. Un jeu PS3, en HD, mais vraiment. Et les animations faciales sont correctes, mais je trouve qu'elles sont un peu... un poil rigide quand même, quoi. C'est-à-dire que les visages sont bien modélisés, les mecs ont de vraies gueules de cow-boy,
et tout,
de bad
y'a
boy.
Y a pas de soucis là-dessus.
Mais les animations en elles-mêmes, c'est l'uncanny valley, quoi. Y a un truc qui va pas, pour moi. Et sans quoi, pour le reste, ok, bah ça sera le Red Dead Redemption 1, mais en plus beau, ouais, ok, t'auras peut-être de meilleures animations. De toute façon, le trailer te montre toutes les features de gameplay que tu vas pouvoir accomplir dans le jeu.
Bah après c'est comme le premier, hein, c'est chaque espèce nature et tradition, hein, donc.
Mais c'est comme GTA 4, GTA 5, tu sais, quand GTA 5 était annoncé, tu savais très bien ce que t'allais faire dans le nouveau GTA. Red Dead Redemption 2 suit les traces de Red Dead Redemption 1, je vois pas pourquoi ça changerait.
Bah après on peut quand même s'attendre à ce qu'il se renouvelle un peu, quoi.
Non mais après ça sera juste des modifications, ça va t'ajouter un peu plus de contenu ou bien un peu plus de ceci, de cela. Mais ça va pas changer fondamentalement les bases que t'avais établies dans le premier opus. Ça sera juste une amélioration. On le sait très bien, quand un 2 sort, c'est une amélioration du système du premier. Mais donc voilà, après, enfin moi, Red Dead Redemption 2, j'ai vu la bande-annonce. J'étais pas plus emballé que ça. Enfin, ce qui m'a plu, c'est juste les doublages que je trouve toujours aussi excellents chez Rockstar. Pour moi, ils font partie des meilleurs doublages qu'on a dans le jeu vidéo.
Ah ça, clairement, oui.
Après, moi, enfin le personnage principal, j'aurais préféré jouer John Marston, quoi, très clairement, parce que...
Moi, je trouve que le personnage principal, en termes de charisme, mais John Marston l'éclate tellement sur... Enfin, par rapport à ce qu'on voit sur cette vidéo, quoi, mais John Marston, il a mille fois plus de charisme que ça.
Mais clairement, et en plus de ça, enfin... Dans Red Dead Redemption, premier du nom, on joue John Marston qui est en pleine rédemption, qui a fini, entre guillemets, sa carrière de bandit, qui essaie de se racheter une conduite, etc. Et moi j'aurais préféré qu'on joue John Marston à cette époque-là quand il était un voyou pour voir justement le côté bad boy du type.
Bah justement a priori là John Marston apparemment c'est la période où il est avec sa femme tout ça donc c'est la période où il est retiré en fait. Moi ce que je trouve intéressant par contre c'est que le nouveau protagoniste a l'air d'être une grosse pute et pour le coup ça change aussi.
Après c'est juste un problème on va dire physiquement quoi. Après quand tu vas jouer avec le personnage tu vas peut-être t'attacher à lui ou le détester. Mais c'est vrai que voilà, en termes de charisme, je trouve que comme tu l'as dit, John Marston, il éclate. Mais bon, après, on n'a pas joué au jeu ni quoi que ce soit.
Ouais, après, c'est juste des impressions sur un trailer. Hein,
exactement.
Fondamentalement, en fait, moi, c'est pas que j'ai plus d'a priori que ça. C'est juste que quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ouais, bah écoute, on verra le jeu, hein. tout simplement, quoi, en fait.
Après, c'est toujours le problème avec Rockstar, hein. C'est-à-dire que t'as les trailers, enfin, au début, c'est une image, ils savent que tout le monde va s'emballer, donc après, t'as les premiers trailers qui t'annoncent pas grand-chose. Là, on a vu quoi? Qu'il y aurait des braquages, apparemment, que tu vas braquer peut-être des trains, enfin...
Ça, c'est cool, ça.
Ouais, ça peut être pas mal, tu vois, une séquence où tu bouges, tac, t'arrives, t'es au-dessus du train, tu dois faire un braquage directement en mouvement, donc ça peut être assez cool. Après voilà, moi je suis assez hypé par Red Dead Redemption 2, mais c'est vrai que le trailer sans plus quoi. Par contre, j'ai pas trop vu l'histoire de au niveau technique. Enfin moi j'ai pas eu de, enfin ça m'a pas époustouflé, mais j'ai pas eu ce petit dégoût que t'as eu Pixel.
Ah bon, je sais pas. C'est.
Enfin, je trouve ça propre, quoi. C'est pas rien de.
Moi, j'ai
fou,
pas été dégoûté, mais je dois avouer que techniquement, j'ai pas trouvé ça fou.
Ouais, mais rien de après.
Ok, bon, on va enchaîner, messieurs, et on va juste passer à la news trollo de la semaine, et c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui m'y colle. Y a un stagiaire cette semaine qui s'est dit que ça serait bien de sortir une vidéo sur les animations faciales de Shenmue 3. Je vous mettrai ça en lien, vous allez voir, c'est savoureux. Donc je tenais à remercier l'équipe de Shenmue 3 de toujours trouver le bon mot pour nous faire rire, n'est-ce pas? Et voilà.
Oh putain, non mais c'est trop beau, tu sais, c'est le mec.
Eh, hey, au fait, les gars, on travaille hein, sur les animations faciales. Regardez, on a une vieille dame là.
Non mais le problème pour moi de Shenmue 3, c'est pas ces animations faciales ou quoi que ce soit, parce que enfin c'est un jeu Dreamcast à la base qui est censé représenter un peu d'être un peu d'une ancienne époque quoi, qui est révolue aujourd'hui. Mais moi vraiment le problème qui me pose un très gros souci avec Shenmue 3, c'est la communication quoi. Les mecs ils sont complètement à la ramasse.
Non mais c'est horrible.
Après, le problème de Shenmue 3, c'est qu'ils cherchent à avoir un rendu de visage réaliste avec des animations dégueulasses, forcément, ouais, c'est un problème, quoi.
Ça fait un Mass Effect Andromeda bis, quoi.
Non, mais disons qu'à la base, je pense qu'il y a un problème de choix de direction artistique. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc peut-être plus cartoon, quitte à ne pas rester fidèle à la direction artistique de l'original. Mais à un moment donné, quand t'as pas le pognon pour faire des bonnes animations faciales, vaut peut-être mieux faire un truc plus cartoon que d'essayer de faire un truc réaliste. Ouais. Bref. Le problème, c'est ce que je voulais dire, c'est que cette vidéo, si tu veux, elle sort dans un contexte. C'est-à-dire que elle sort dans le contexte de, il y a eu une polémique récemment sur les animations faciales où les gens disaient que c'était dégueulasse et que, a priori, cette vidéo est là pour répondre à ça. Sauf que je suis désolé, mais c'est pas rassurant ce que vous montrez.
Exactement.
Là. Tu vois, ce serait un carnet de développement montré comme ça ou dans un autre contexte où il n'y aurait pas eu tout ce bordel autour de ce qui s'est passé durant la Gamescom. Ce serait, tu sais, genre une update du Kickstarter et juste ça. Il n'y aurait pas de souci. Mais là, ça sort dans un contexte et des mecs, faut juste pas faire ça, quoi. Engager un communicant, je sais pas, mais faut pas faire ce que vous faites parce que là, clairement, ça fait fuir les gens, en fait, quoi. Enfin, ça rassure pas, en tout cas.
Non, mais là, voilà. On est clairement dans l'Unkey Valley type Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, quand il était sorti, les gens s'en foutaient de savoir si le jeu était bien, s'il était pas bien. Ce qui a fait le plus parler de lui à la sortie, c'était les animations faciales qui étaient dégueulasses. Là, Shenmue, le jeu n'est pas encore sorti. Ils nous ont montré les premières animations faciales qui étaient dégueulasses. Et le problème, c'est comme tu l'as très bien dit, il y a eu la polémique, ils te montrent une vidéo comme ça. Mais même à la base, s'il n'y aurait pas eu la polémique, ils auraient sorti ça comme ça, mais les gens, ils auraient complètement rigolé parce que c'est juste immonde ce qu'ils nous montrent. Moi, c'est un truc qui doit rester en interne. Ça ne doit pas sortir des bureaux de YesNet. Ça reste en interne et puis vous travaillez là-dessus et puis vous améliorez ça. Enfin, les journalistes ou bien les grossistes, etc., qui ont accès à des informations que nous, on n'a pas en avance. Ils peuvent avoir accès à ce genre de choses-là, mais bon, tu vois, ils leur disent « Ok, les gars, c'est en cours de progression, donc c'est juste pour vous montrer une ébauche, ou bien c'est sur quoi on est en train de travailler, mais ça doit pas être rendu public, parce que les publics, la première chose qu'ils vont faire, c'est va être critiqué. Tu ne peux pas montrer ce genre de choses-là. Un jeu, pour être montré au public, il faut qu'il y ait quand même les bases. »
Après, je te rappelle à TH quand même qu'on est dans le contexte d'un projet Kickstarter, où il y a des gens qui ont financé le projet, qui ont un droit de regard quand même, un peu, sur ce qui se passe. Ça me choque pas qu'ils sortent une vidéo comme ça, si c'est genre une vidéo en privé sur Kickstarter, parce qu'il y a un système où tu peux locker la news, où juste les gens qui ont financé Kickstarter peuvent voir la vidéo, surtout qu'il y a un player Kickstarter, donc t'es pas obligé de l'uploader sur YouTube, quoi. Tu peux juste dire, ok, ça, on bosse sur les animations pour le moment, attention les gens, c'est du work in progress, machin, mais encore une fois, il y a un contexte.
Ouais, mais enfin, restez comme à l'époque sur la Dreamcast, faites un truc comme à l'époque de la Dreamcast. Je m'en fous des animations faciales de Shenmue. Je sais très bien que c'est un jeu qui est...
Cela dit, les animations faciales de Shenmue, elles étaient mieux faites. Hein.
Oui, mais non, mais refaire un truc comme à l'époque de la Dreamcast. Aujourd'hui, en 2017, ça te coûtera beaucoup moins cher, tu vois. Ouais. Mais par contre, moi, ce qui me pose un problème, c'est que... Ils commencent à communiquer là-dessus. Mais non, commencez à communiquer sur le système de combat. Montrez-nous les choses qui nous intéressent dans Shenmue. On sait très bien que c'est pas un jeu qui est de notre époque. C'est un jeu d'une ancienne époque qu'on remet au goût du jour. Mais montrez-nous au moins ce qui est, va faire les points forts du jeu, sur quoi vous misez le plus. Il y a des jeux, voilà, le scénario c'est pas le point fort, ils vont pas miser sur l'aspect scénario. Si FIFA misait tout sur le scénario du jeu, alors qu'on s'en fout, c'est un jeu de foot, tu vois. Le but du jeu c'est de mettre le ballon au fond, défiler. Et bah là, Shenmue il communique pour moi sur quelque chose qui ne devrait pas communiquer, ou du moins pas dans cet état-là.
Ouais, tu concentres sur le système de combat, point quoi.
Et après tu montres les musiques, etc. Et les animations faciales, enfin, c'est un truc qui est complètement annexe pour moi, pour un jeu comme Shenmue. Après, si Shenmue a été développé par Sega avec les moyens de Sega d'aujourd'hui, là, oui, ça aurait eu un sens.
Bah, surtout qu'en plus, Sega, le moteur de Yakuza, ou enfin, Yakuza est ultra connu pour ses visages qui sont absolument fabuleux, quoi.
Ouais.
Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des gros soucis de communication sur Shenmue 3, et le projet, il fait peur.
Exactement.
On va enchaîner sur Atlus. Encore une fois, c'est un peu news trollolo. Il y a Atlus qui s'est dit comme ça cette semaine, bah tiens, ils nous font chier, ces développeurs d'émulateurs PS3. Parce que je rappelle donc que Persona 5 est sorti sur PS3, n'est-ce pas? Et donc, il y a l'émulateur RPCS3, je crois, qui a fait d'énormes progrès ces derniers temps. Notamment, on peut faire tourner des jeux dessus comme Demon's Souls, mais surtout, on peut faire tourner dessus Persona 5. Et vous le savez, Atlus, ils sont un peu trop protecteurs de leur IP, hein. Je rappelle quand même qu'ils ont fait chier des youtubeurs parce qu'ils voulaient pas qu'ils diffusent la fin du jeu ou ce genre de choses, et que ça avait créé une shitstorm qui était pas franchement nécessaire, n'est-ce pas, hein. Après tout, les gens sont grands, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et donc ils se sont dit que ils allaient essayer de faire ce que même Sony n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire empêcher des gens qui développent un émulateur de développer un émulateur, tout simplement. Alors, ils ont tenté la tactique du « Alors, vous avez un Patreon, bah, on va demander à Patreon de vous couper les vivres. » Sauf que, malheureusement pour eux, ben, il y a des précédents, hein. Il se trouve que Sony a fait des procès à certains émulateurs, n'est-ce pas, et qu'ils ont perdu. Et Patreon leur a dit « Fuck off ». Voilà, tout simplement. Donc, merci Atlus, hein, c'était gentil de votre part. Alors, bien évidemment, comme d'habitude avec Atlus, ils t'ont sorti un communiqué en mode « Oui, mais non, on préférerait que les gens sur PC aient accès à une version qui n'ait pas des problèmes de framerate, etc., à cause de l'émulation, etc. » On est d'accord, les gens, mais vous attendez quoi pour le sortir Persona 5 sur PC, en fait? Parce que moi, je me rappelle d'un certain discours tenu par Atlus où on disait « Non, non, nous, Persona 5, c'est PlayStation, allez vous faire foutre, connard de PCiste. » Bon, il le disait pas comme ça, évidemment, hein, mais voilà, c'était quand même le sous-texte, quoi. Bah, écoutez, si vous voulez que des PCistes jouent à Persona 5 dans de bonnes conditions, j'ai un scoop pour vous, hein. Sortez Persona 5 sur PC. Voilà.
Non, mais en plus, la stratégie est totalement nulle, dans le sens où, là, en fait, ils font plus de promotion pour l'émulateur,
pour l'émulateur,
et le fait qu'ils sont sur... Parce que là, je veux dire, je connaissais même pas cet émulateur, enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais je le connaissais pas, j'ai dit, ah, bah, c'est sympa, ça. Tu vois, c'est complètement débile.
Ça me faisait chier de le prendre sur PS4, du coup.
Ouais, ouais. Non, je l'ai déjà pris, mais après, c'est vrai que ils arrivent, il y a des précédents.
Avec des boîtes beaucoup plus grosses qu'eux, en plus, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Et
c'est Sony, quoi.
Et en plus, même le truc est tordu. C'est-à-dire que, oui, c'est un émulateur. On n'attaque pas l'émulateur, mais le fait qu'on puisse jouer à notre jeu sur cet émulateur, je veux dire, c'est, enfin, t'as plein de précédents. T'as les logiciels, même externes, comme Plex, qui permettent de lire tes fichiers où les gens payent. Plex en lui-même est légal, mais les fichiers que tout le monde utilise sont illégaux dessus. Enfin, c'est, t'as plein de...
Bah, de toute façon, l'émulation, il y a aucun problème, quoi, parce que c'est les mecs qui ont développé un programme qui émule un truc, et du moment qu'il n'y a pas le BIOS dedans et qu'ils ne filent pas les ROM, bah écoute, il n'y a pas de problème.
Ouais. Bon, après, ils ont juste retiré les infos sur Persona 5, mais bah, à part ça...
Le problème, c'est que maintenant, tout le monde sait que RPCS3 fait tourner Persona 5,
ça.
Du coup, donc...
Mais merci, les gars, merci, Atlus.
Et puis, encore une fois, je peux comprendre un limite qui est mauvais, tu vois, mais les mecs... Vous avez pas sorti Persona 5 sur PC. Donc, si vous voulez que les gens jouent à Persona 5 sur PC dans les conditions acceptables, sortez-le sur PC. C'est tout ce qu'on vous demande. Et je l'achèterai avec plaisir, personnellement. Même si j'ai déjà sur PS4. Mais rien que pour encourager l'initiative, je le ferai. Donc, soyez pas cons, sortez-le. C'est tout ce que j'ai à dire.
Peut-être que c'est en projet, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire parler du truc un peu.
Oui.
Non, mais je pense que oui, c'est, il y aura une version. Persona 4 était sorti sur PC ou pas?
Non, non. Bah, en même temps, c'était en 2008, hein, donc,
ouais, mais bon, comme il y a eu...
C'était une autre époque.
Comme il y a, comme il y avait une version PS Vita qui est arrivée, qui avait un peu buzzé, je m'étais dit peut-être que Persona 4 et, édition ultime, je sais pas quoi, là, était arrivée sur PC, et du coup, Atlus allait sortir leur futur jeu dessus, et Persona 5 en faisait partie, c'est juste qu'ils avaient pas communiqué là-dessus. C'est comme Final Fantasy 15. Final Fantasy 15, on voit très bien un an après qu'il a annoncé sur PC, alors que, à la base, tu vois, c'était un jeu qui était prévu sur PS4 et, sur Xbox One, donc.
Ouais, surtout que c'est pas comme s'il y avait pas des ressources chez Sega pour faire des jeux sur PC, hein. C'est pas comme si Sega était pas un des plus gros éditeurs PC, par ailleurs, et que ça serait pas totalement déconnant non plus de mettre en commun ses ressources pour aider Atlus à sortir le jeu sur PC. Bon, après, je rappelle quand même que Atlus a un statut spécial chez Sega, hein. Ils sont plus ou moins indépendants, voilà. Mais bon, avec deux doigts du jot, je veux dire, je sais pas, à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, bon, ok, on va discuter avec ces gars et ils nous aident pour sortir le jeu sur PC.
J'ai l'impression que la communication, c'est pas leur point fort non plus. Même ces gars, à l'époque, enfin, ouais. À l'époque de la, on se souvient tous de l'époque de la Dreamcast, de la Saturn, enfin, c'était complètement n'importe quoi, la communication de ces gars. Et tu vois, là, le fait que Atlus aussi, ça fait partie de ces gars, mais c'est pas vraiment rattaché à ces gars, enfin, ils gèrent un peu le truc comme ils veulent. Et là, du coup, Atlus ouvre sa gueule parce qu'il y a l'émulateur, enfin, si tu veux, c'est un bordel un petit peu monstre. Et ces gars, j'ai l'impression aussi que, ils ont un monopole sur le PC sur certains types de jeux, mais pourtant tu vois sur PC ils ont les ressources, mais pourquoi ne pas inclure aussi les jeux Atlus qui sont des JRPG qui pourraient très bien sortir sur PC? Il y a un public
pour
ça, quoi.
Qu'ils ont sorti Valkyria Chronicle qui s'est vendu à 900 000 exemplaires, je veux dire, il vous faut quoi de plus pour vous inciter à à faire la même chose pour vos autres jeux, par exemple Yakuza ou ce genre, enfin bref.
Après ouais, je pense que pour les Yakuza, c'est parce qu'il y a des deals, tu vois.
J'ai jamais compris ces gars, les mecs ils sont assis sur une mine d'or, ils n'en font rien. C'est très particulier comme attitude, mais bref. Écoute,
RIP la Dreamcast, hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était une des meilleures consoles sur le papier, et pourtant.
Voilà. Bon, Dwayne, je te propose qu'on termine cette semaine d'actualité avec une news un poil sordide.
Bah, un petit combo de, on va dire, communication encore foireuse. Donc, c'est-à-dire que t'as Warner Bros. Donc, qui publie Shadow of War, donc L'ombre de la guerre, qui est la suite de L'ombre du Mordor, qui est sorti il y a quelques années. Donc, qui était assez bon avec le système Nemesis, etc.
Avec un superbe test de Mordred sur GameInfo.fr.
Exactement. Le jeu était assez bien reçu, etc. Donc, ils ont commencé leur campagne marketing, enfin, leur descente avec les loot box, donc, qui permettent maintenant de choper des box avec de l'argent réel, où t'as un système de loterie, où tu vas pouvoir customiser, etc.
On est d'accord, des loot box dans un jeu solo, hein.
Voilà, dans un jeu solo. Voilà.
Tout ce qu'on aime, hein.
Voilà. Donc, Shitstorm, sur le web, là cette semaine.
Bon, ça date pas de cette semaine, hein. Ça fait un moment que cette histoire tourne, mais
ouais,
disons que.
Ouais, l'histoire tourne, mais en fait cette semaine, il y a eu une interview avec Eurogamer où ils essayent de s'excuser un peu par rapport à ça et d'expliquer. Et en fait, le mec s'enfonce totalement. Déjà, il démarre en disant ouais, non, mais nous, on a fait de toute façon les tests sans les loot box. Tout va bien aller, c'est bon. Donc en gros, ce qu'il te dit, c'est que il a pas testé l'impact des loot box sur le jeu, sachant que c'est solo, mais qu'il y aura aussi une légère partie multi où t'auras des forteresses et où les gens vont se fighter entre eux.
Oui, parce que le problème des loot box, c'est que le jeu est designé autour de ce système-là. Donc ça veut dire qu'il est designé pour créer un manque chez le joueur pour qu'il achète des loot box à un moment donné. Il y a un mécanisme derrière, hein. C'est le même mécanisme que les jeux d'argent. Et c'est assez crade d'ailleurs comme système. Okay. Autant sur un jeu gratuit, à la limite, bon, on peut le tolérer. Mm. Mais sur un jeu comme ça, solo en plus, c'est même pas un jeu multijoueur, c'est un jeu solo.
Ouais, même s'ils vont imbriquer
une partie. Ça
pose un petit
problème,
quoi. C'est, globalement, c'est vraiment le solo qui est prédominant. Et bah voilà, il se défend sur plusieurs points. Bon, je vais pas reprendre parce qu'il s'enfonce de plus en plus après. Mais globalement, ce qu'il dit, c'est voilà, ouais, moi, si je devais le faire, je le ferais sans les loot box. Mais on a organisé les choses bien pour qu'on puisse, enfin, on ne crée pas de manque chez le joueur. En
oui,
fait, il
sûr.
Dit tout ça. Mais le truc, c'est que dès le départ, il te dit qu'il a pas testé avec les loot box et que tout est fait sans ça, etc. Donc, tu vas pas me faire croire que t'as pas testé l'impact des loot box que tu mets sur ton jeu.
Ou alors c'est que tu es un extrêmement mauvais game designer si t'as pas testé les mécaniques que t'implantes.
Exactement. C'est absolument ridicule.
Voilà.
Donc il y a ce premier aspect et encore mieux ensuite il y a le truc un peu plus morbide où ils ont donc il y a un producteur exécutif sur le jeu qui s'appelle Michael Forgy qui est décédé du cancer durant le développement et donc ils ont proposé en fait un DLC qui coûtait donc environ $5. Donc ils l'ont fait en fait en hommage à ce producteur exécutif.
En gros, c'est un personnage du jeu qui viendra vous aider, qui est à la gueule du gars.
Voilà.
Et l'idée, c'était vous donner de l'argent et l'argent ira à la famille au départ.
C'est ça. Sauf que petit point, ça ira à la famille. Sauf que par rapport à la loi, il y avait dans les petites lignes. Donc dans certaines régions des États-Unis et par exemple à l'étranger, la loi ne permet pas ce type de choses. Donc tout l'argent allait directement à Warner Bros.
Donc, en gros, Warner Bros. Fait de l'argent sur quelqu'un qui a le cancer.
Voilà, donc deuxième shitstorm. Et justement, Warner Bros. Est revenu. Ils ont dit, non, mais en fait, malgré ces petites lignes qu'on avait mis au niveau du contrat, en fait, on allait donner toute la thune. Donc, ça a plu à personne. Et la shitstorm a continué. Et donc, cette semaine, ils ont rétro-bédalé et se sont enfin excusés. Ils ont dit, ça passe gratuit. On va faire des dons directement à la famille. Si vous voulez donner, il y a le lien. Et donc, dans un premier temps, moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'était surtout sur l'aspect lootbox. Bon, je sais que c'est naze, mais par exemple, ce que je voulais savoir, c'est si vous alliez acheter Shadow of War, est-ce que ça vous empêche de l'acheter, le fait qu'il y ait ces lootbox?
Personnellement, évidemment. Enfin, j'ai toujours promu le fait qu'on votait avec notre portefeuille, je vais pas acheter un jeu où j'estime qu'on se fout clairement ma gueule. Après, j'avais pas spécialement l'intention de l'acheter, hein. Mais un jeu que j'aurais envie d'acheter qui me fait ça, je dis fuck off, quoi. Je veux dire, j'ai pas acheté un jeu qui faisait extrêmement envie comme Diablo 3, c'est pas pour acheter ça, hein. Voilà.
Alors après moi, dans l'idée, si tu veux, par rapport au lootbox, on va prendre l'exemple de Shadow of War. Admettons que j'ai envie d'acheter le jeu, chose qui n'est pas le cas parce que voilà, enfin, il m'intéresse pas vraiment. Mais admettons que j'ai envie de l'acheter. Si le jeu sort avec les tests disent que voilà, l'aspect lootbox, t'es pas obligé de les ouvrir ou que c'est pas dérangeant vraiment, enfin ça n'apporte rien. Si tu veux, ça me dérangerait pas. Par contre, si on me dit oui, le jeu, il y a un aspect multijoueur et que si tu les ouvres pas et que t'as pas payé, t'es dans la panade, bon, ça me ferait chier. Et si les lootbox sont trop omniprésentes, enfin que cet aspect-là soit envahissant dans un jeu qui est complètement solo, là ouais, ça me dérangerait. Mais même, enfin déjà, je trouve ça complètement con de mettre des lootbox dans un jeu où tu joues seul, quoi. Donc sur le principe déjà c'est con, mais ça m'empêcherait pas de l'acheter si c'est pas gênant. Par contre, ouais, si c'est casse-couille pour moi, je ne l'achèterai pas, quoi.
Pixel?
Non, je suis contre. On est bien d'accord. Pour le genre lui-même, je peux pas dire que je vais pas y jouer, parce que en fait, bon, j'ai joué au premier. S'il y avait pas eu le mode... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié.
Nemesis?
Le mode Nemesis, je me serais fait chier. Là, le mode Nemesis revient, apparemment il est amélioré, mais... j'ai pas regardé aucune vidéo en fait concernant le jeu, donc je
sais pas. Tu t'es pas spoilé, n'est-ce pas?
Je ne me suis pas spoilé, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Il me tente un petit peu, mais c'est vrai que toutes les controverses autour, bon, me freinent un petit peu dans ma décision finale. On va dire ça comme ça.
Et pour développer, moi, ce qui me gêne en fait, c'est que même si c'est pas obligatoire, machin. C'est la stratégie du pied dans la porte, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, on commence avec un système qui est pas contraignant. Et puis, petit à petit, ça rentre dans les habitudes des gens. On pousse petit à petit le bouchon un peu plus loin, quoi, en fait.
Mais un peu comme les DLC, quoi, à la base.
Voilà, voilà. Comme les DLC, aujourd'hui, c'est totalement accepté. Avant, les DLC, alors qu'à une époque, mon dieu,
c'était
quoi.
C'était des bonus. Si vous achetez le jeu chez nous, on vous donne une nouvelle arme trop stylée, nanani, nanana. Comme ça, t'as l'habitude d'aller sur ton compte PSN pour télécharger ce type de contenu. Tu sais comment ça fonctionne, sauf que, un an ou deux ans après, c'était devenu complètement payant et t'avais des DLC pour tout et n'importe quoi. Pour que ça soit pour une nouvelle coupe de cheveux, pour une nouvelle arme ultra stylée, ils ont quand même un petit peu ralenti par rapport à ce qu'il y avait à une époque. Mais à une époque, il y avait des DLC pour tout et n'importe quoi.
Ouais, ouais. Cela dit, j'ai envie de dire que le résultat de cette acceptation, c'est on en arrive avec Bethesda qui te fait le Creation Club, où là maintenant, on t'explique que les mods, ça va être des DLC. Et quand tu demandes à Bethesda, mais attends, du coup, si c'est des DLC, pourquoi quand j'ai le Season Pass, j'ai pas accès à tout ce qui sort sur le Creation Club? Ah mais non, mais c'est pas tout à fait des DLC, donc c'est des mods. Ah mais non, c'est pas tout à fait des mods, donc c'est des DLC.
Non, c'est des DLC mods. C'est des mods DLC.
Voilà, c'est ça. C'est des contenus payants téléchargeables qui ne sont pas des DLC.
Non, d'accord. C'est des contenus payants qui ne sont pas inclus dans le Season Pass que tu devras raquer par toi-même si tu veux les avoir dans ton jeu et tu fermes ta gueule.
Attends, du coup, le Season Pass, c'est pour tous les DLC, on est d'accord. Vous avez compris le trolouné, n'est-ce pas?
Par contre, après, pour revenir sur l'histoire de Michael Forger, je trouve ça complètement dégueulasse de communiquer déjà là-dessus sur une personne qui est décédée. Que tu veux lui donner de l'argent par rapport à ce que la personne a participé à ton jeu et que tu le fasses de manière totalement discrète et anonyme, il n'y a pas de souci, je suis même plutôt pour. Et même si vous voulez dire un petit message... voilà, sur votre site officiel, en mémoire à Michael Forger, voilà.
Ou même, faisait... tu sais, tu mets, genre, de base, tu intègres le personnage au jeu. Mm-hmm. Tu mets en hommage à la fin dans les crédits, machin. Tu fais du pognon à la famille, parce que pourra pas. Voilà, point.
Et voilà,
et qu'est-ce même... que t'as besoin d'aller vendre un DLC et te faire de l'argent sur un mort, quoi. Moi, c'est ça qui me, ça me rend fou quand je me dis, mais est-ce que vous dormez bien, les gens, quand vous vous rendez compte que vous faites ce genre de choses? Vous faites de l'argent sur un mort.
Et moi, ce qui me dégoûte, c'est...
Vous avez pas honte.
Voilà, un grand éditeur comme ça qui fait de l'argent sur quelque chose où tu ne devrais même pas communiquer là-dessus déjà. Et ça me rappelle, tu vois, là, je vais dévier un peu vers le football. Mais dans le football, il y a un joueur de foot là en ce moment qui s'appelle Patrice Reva, qui joue à l'Olympique de Marseille, qui fait n'importe quoi sur le terrain, enfin qui est complètement à la ramasse. Mais par contre, tous les lundis, il sort une vidéo sur son compte Instagram ou je sais pas quoi. Et une fois, il s'est permis de se filmer en train de donner de l'argent à des sans-abri. En gros, c'était... je donne de l'argent, donc je suis quelqu'un de bien. Même si je suis mauvais sur le terrain, pardonnez-moi. Mais mec, si tu veux donner de l'argent à des sans-abri, tu le fais, mais tu te montres pas à la caméra. Tu surfes sur la misère des gens. Mais ça, c'est un truc, je trouve ça scandaleux, et c'est complètement dégueulasse. Et pour ce qui, Warner Bros. Fait avec ce type, je trouve ça, c'est de la même acabit. Pour moi, c'est dégueulasse. Ils surfent sur la misère humaine. En gros, ils essaient de se faire passer pour des chevaliers blancs, alors que ce sont juste des putains de connards.
Tu voilà. parles de mecs qui viennent d'Hollywood, c'est vraiment Warner Bros, quoi. C'est... Tu parles les mecs qui sont là pour enrichir leurs actionnaires et rien de plus. Hein.
Oui, non, mais je m'en fous. Si tu veux, c'est des êtres humains quand même, à la base.
Mais ils vivent... Non, c'est les mecs à Hollywood, c'est plus des êtres humains. Ils vivent dans un autre espace-temps. Ils vivent pas comme nous. Tu le sais très bien.
Non, mais ça, je...
C'est Hollywood.
Ce qui m'énerve, c'est que tu vois, déjà, ça, enfin, le DLC, il est vendu $3.99. Déjà, pourquoi ne pas le mettre gratuit? Et même, pourquoi ne pas l'avoir inclus dans le jeu de base, déjà, de 1? Et de 2, si tu veux faire une levée de fonds pour la famille, déjà, toi, donne de l'argent, mais sans dire combien tu as donné, etc., on s'en fout. Mais si tu veux faire une levée de fonds, tu fais ça sur ton site internet et tu communiques là-dessus. Voilà, pour ceux qui veulent donner, donner les dons pour la famille de monsieur Michael Forger. Et puis, ça s'arrête là. T'aurais fait une bonne action et puis c'est tout.
Voilà. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, messieurs.
Tout à fait.
Ils m'ont bien énervé en plus, ces enfoirés. Hein.
Oh là là.
Bon, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.
Mais t'as oublié une news super importante, en fait. Bah, la NES Classic Mini revient en France à l'été 2018, bordel de merde.